18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Deux heures d'information, d'analyse, de débat, de rendez-vous à ne pas rater ce soir, 18h20. Est-ce que ce sera enfin le bon ou bien le énième plan national anti-drogue? Que contient-il? Tous les détails dans le journal de Sébastien Krebs dans un instant. Et puis une réaction, la réaction forte ce soir de mon invité, Gilles Leclerc, ancien préfet de police de Marseille. Il sera dans ce studio dans une vingtaine de minutes. 19h30, nous sommes prévenus. Le réchauffement climatique sera encore plus fort que prévu. Des scientifiques français tirent la sonnette d'alarme. Le photographe Yann Arthus Bertrand nous dira ce soir si on a encore moyen de gagner ce combat contre le changement climatique. Il sera dans ce studio à 19h30. Bonsoir Sébastien Krebs.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'information c'est en direct avec vous et c'est chaque soir. L'info qu'il vous faut, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 et c'est parti jusqu'à 20h. Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Nous voulons frapper fort et envoyer un message clair aux trafiquants. La France ne sera pas leur terrain de jeu.
Quatre ministres en première ligne contre la drogue annoncent à Marseille d'un plan de 55 mesures pour lutter contre les trafics désormais industrialisés et mondialisés.
Policiers, douaniers et magistrats appelés à travailler ensemble. Tous les détails dans un instant et mon invité à 18h20.
À la une également l'offensive d'Emmanuel Macron sur l'immigration. Ne pas être trop laxiste, dit-il, quitte à remuer dans la majorité.
C'est la même vision de l'immigration que je ne partage pas.
Les informations de David Doucan à suivre sur les intentions concrètes du président.
Dans ce journal également, le réchauffement climatique a-t-il été sous-estimé? Une nouvelle étude française avance des scénarios bien plus pessimistes que ceux que l'on connaissait. Nous passons notre coup de fil à l'un de ses auteurs.
Enfin, un hymne de retour ce soir. Celui de la Ligue des Champions, ouais. Vous l'avez reconnu, elle fait son retour en attendant PSG Real demain. C'est Lyon qui ouvre le bal ce soir, ainsi que Lille qui est en déplacement à Amsterdam. Nous irons sur place.
Demain, édition spéciale dès 18h d'ailleurs, hein, sur ce match PSG Real.
La Bourse de Paris en légère hausse ce soir, plus 0,24% à 5615 points.
Et la tendance météo, Anissa?
Alors demain, beaucoup de soleil, mais les températures sont en chute libre et c'est le retour du mauvais temps sur le sud-ouest.
Bon, le détail à 19h, après 19h.
Europe 1.
Il était en gestation depuis plus d'un an, ce plan contre les trafics de stupéfiants. Et quoi de plus symbolique que de le présenter à Marseille, qui en souffre terriblement. Encore une dizaine de blessés par balle dans les règlements de compte le week-end dernier. Aujourd'hui, quatre ministres ont fait le déplacement, car c'est tout l'enjeu, faire travailler ensemble la police, la gendarmerie, les magistrats, les douaniers. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
La lutte contre la drogue, c'est plus qu'un enjeu policier. C'est un enjeu de société. Le trafic s'est industrialisé, il s'est mondialisé. Notre objectif est simple, mutualiser nos forces. Nous voulons frapper fort, nous voulons frapper ensemble et envoyer un message clair aux trafiquants, la France ne sera pas leur terrain de jeu.
Bonsoir Nathalie Chevance.
Bonsoir Nathalie.
Vous avez suivi l'annonce de ce plan à Marseille. Comment le gouvernement compte-t-il mutualiser ses forces, hein, comme dit Christophe Castaner?
Eh bien, en créant un tout nouvel organisme, son nom, l'OFAST, pour Office Anti-Stupéfiant, avec à sa tête un policier et un magistrat. Leur mission, coordonner tous les acteurs dans la lutte anti-stup, décloisonner police, gendarmerie, douane, justice, tous vont désormais travailler ensemble, échanger leurs informations pour plus d'efficacité face à des trafiquants qui, en 60 ans, c'est vrai, ont considérablement évolué en utilisant parfois des méthodes jusque-là réservées au terrorisme. Alors, l'OFAST comptera 150 enquêteurs, disposera aussi de 16 antennes territoriales pour faire remonter le renseignement, et ce à tous les niveaux, police municipale, bailleurs sociaux ou encore transport urbain. Mais la volonté, c'est également de frapper les trafiquants au porte-monnaie, de saisir leur patrimoine, sachant que le chiffre d'affaires des réseaux est estimé à 3,5 milliards d'euros en France. C'est le premier marché criminel. Quant aux consommateurs, eh bien, ils seront soumis à une amende forfaitaire de 200 euros dès l'an prochain. Une campagne de sensibilisation sera lancée pour casser l'image festive de la drogue et informer de ses dangers.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Vous avez peut-être entendu dès ce matin sur Europe 1 la sénatrice de Marseille, Samia Ghali, elle est moyennement convaincue ce soir par ces annonces, notamment par cette annonce sur une plateforme d'appel qui doit être créée et qui doit permettre à chacun de signaler les lieux où les dealers sévissent.
Je suis assez surprise parce que, en réalité, les habitants disent déjà où sont les points de deal. On les connaît, les points de deal. Enfin, il suffit juste d'y rentrer, d'y pénétrer pour le voir. Je crois que la police sait où sont les points de deal. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas assez de moyens pour pouvoir pénétrer et les remettre en question. Je ne sais pas si on a besoin que la dame qui habite au 8e étage de tel bâtiment ait besoin d'appeler le numéro vert pour le dire. Mais si elle appelle le numéro vert, mais que derrière, il n'y a pas de réaction, alors là, effectivement, la déception sera très grande.
La sénatrice socialiste de Marseille, Samia Ghali.
Et on en parle plus longuement de ce plan anti-stup avec mon invité, l'ancien préfet de police de Marseille, Gilles Leclerc. Que pense-t-il de ces mesures? Je lui pose la question, on en débattra aussi avec les grandes voix dès 18h30.
L'actualité politique. Ce soir, c'est aussi le sujet de l'immigration remis au premier plan par Emmanuel Macron. Hier soir, devant les parlementaires de la majorité, regardez le sujet en face. Voilà la consigne du président. Ne pas le laisser à l'extrême droite.
Et prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. Voilà ce qu'il a dit hier, et ça n'a pas plu à tout le monde. Quelques voix s'élèvent ce soir au sein de l'aile gauche de la majorité, comme celle de la députée Sonia Crimi.
Ça ne m'étonne pas, j'étais étonnée en 2017, je le suis beaucoup moins aujourd'hui. C'est la même vision de l'immigration que je ne partage pas. En revanche, je salue le fait qu'il met sur la table le sujet. Mais je constate aussi qu'il y a un aveu que la politique que nous avons menée de l'immigration jusqu'à aujourd'hui n'était pas la bonne. Je veux bien que tous les un an et demi qu'on fasse un vrai sujet immigration, mais sauf que ça ne sert à rien. On doit passer notre temps à parler des vraies solutions qui sont à court terme et à long terme. Quand on fait le lien avec la sécurité au passage, je trouve qu'on ne participe pas à apaiser la société.
Sonia Crimi avec Jean-Rémy Baudot. Et bonsoir David Doucan.
Bonsoir.
On en sait un peu plus ce soir sur ce que le président a derrière la tête sur ce sujet et sur les décisions qu'il compte prendre, notamment sur la question de l'aide médicale d'État. Ça fait débat, hein, cette aide qui permet aux étrangers, même en situation irrégulière, de se faire soigner. Est-ce qu'au final, le gouvernement va y toucher?
Eh bien, cette aide, elle représente un peu moins d'un milliard d'euros par an dans le budget de l'État. Donc le sujet trouve forcément un écho dans l'opinion quand tant de Français ont du mal à accéder aux soins. Ceci étant posé, l'AME, l'aide médicale d'État, a une utilité sanitaire puisqu'elle empêche la propagation de maladies contagieuses. Le gouvernement, en réalité, est divisé sur la question. Certains poussent pour réduire le panier de soins, c'est-à-dire toutes les pathologies qui peuvent être prises en charge par l'AME. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'y oppose totalement. Et ces arguments, ceux d'Agnès Buzyn, portent en haut lieu. Un membre du gouvernement, parmi les plus proches d'Emmanuel Macron, me confiait tout à l'heure, je cite, « Si on constate des pratiques vraiment hors cadre, on ajustera, mais pas question de toucher au principe de l'AME. » Reste maintenant l'idée d'instaurer par exemple des quotas sur l'immigration légale. Ça n'a aucun impact sur l'immigration clandestine, mais cela envoie un signal politique qui rappelle l'immigration choisie, qui était au cœur de la primaire de la droite. La vérité, c'est que le seul levier vraiment efficace, c'est de faire augmenter le nombre de reconduites à la frontière. Donc, obtenir des laissez-passer consulaires de la part des pays d'origine. Et pour cela, le gouvernement est prêt à installer des bras de fer, des rapports de force, aide au développement, d'accord, mais en échange des laissez-passer.
David Doucan, chef du service politique d'Europe 1. En tout cas, ça ravive le débat et le duel contre Marine Le Pen qui, elle, demande un référendum sur un certain nombre de questions liées à l'immigration.
Emmanuel Macron qui durcit son discours. On en reparle avec les grandes voix à 18h30. Le plan anti-drogue également. Ce sera à suivre le débat des grandes voix et avec vous également au 39-21.
Il est 18h07. La suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Et si les scientifiques avaient en fait sous-estimé le phénomène? Et si le réchauffement climatique était bien pire que prévu? C'est le résultat, en tout cas, d'une nouvelle étude qui nous interpelle ce soir.
Une étude de chercheurs français issus de Météo France, du CNRS ou encore du CEA. Ce sont des résultats très sérieux qui vont alimenter le futur rapport du GIEC, les experts de l'ONU. Ils ont travaillé sur de nouveaux modèles et effectivement leurs prévisions sont bien plus pessimistes. Le pire scénario, c'est plus 7 degrés en 2100. C'est considérable. Jusque-là, on parlait de 4 degrés.
Bonsoir Olivier Boucher.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, climatologue au laboratoire de météorologie à l'Institut Simon Laplace. Vous avez participé à ces travaux. Des projections bien plus pessimistes, donc c'est vraiment la mauvaise nouvelle du jour. Cela veut dire quoi? Que se passe-t-il? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre s'il est encore temps?
Non, il n'est pas trop tard. C'est-à-dire qu'il faudra s'adapter au réchauffement climatique en cours, hein, pour dans les prochaines décennies, mais il faut aussi préparer le futur, préparer la deuxième partie du XXIe siècle en réduisant le plus rapidement possible les émissions de gaz à effet de serre de manière à pouvoir stabiliser ce réchauffement climatique.
Dans le scénario le plus optimiste, et vous nous l'avez livré, si on donne la priorité au développement durable, on prend quand même 2 degrés. Ça implique que des technologies qui ne sont pas encore là, dont on ne dispose pas encore.
Donc le scénario qui permet de s'approcher des 2 degrés nécessite effectivement de réduire les émissions le plus rapidement possible avec des technologies qui sont là et d'autres qui ne sont pas encore là, jusqu'à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060-2080, et ensuite effectivement aller rechercher du CO2 dans l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle les émissions négatives, où il s'agit de capter le CO2 et l'enfouir sous terre avec des technologies dont on a une idée de ce qu'elles pourraient être, mais dont on ne sait pas trop si elles peuvent être mises à l'échelle pour avoir un tel impact sur le climat.
Concrètement, Olivier Boucher, quel type de scène? On a vu évidemment la canicule de 2003 qui avait tué 15 000 personnes dans l'Hexagone. Ça deviendrait la norme dans les années 2050, par exemple?
Donc on peut s'attendre effectivement à une poursuite du réchauffement, à une augmentation du nombre de canicules, à la fois donc en nombre mais aussi en intensité, à des changements dans les régimes de précipitation, en particulier donc sur le pourtour méditerranéen, un assèchement de ces régions-là, et puis aussi des précipitations plus extrêmes. Donc un certain nombre d'impacts qui vont arriver, qui sont déjà là, qui vont continuer et auxquels il faut s'adapter.
Merci beaucoup Olivier Boucher. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche, entre autres, au CNRS, avec du coup ces nouvelles projections scientifiques très alarmantes. Merci beaucoup.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h. Attention, arnaque. 1 milliard d'euros partis en fumée dans de faux placements financiers. On vous dit tout sur les pièges à éviter.
Et puis le top départ de la Ligue des Champions ce soir avec Lyon et Lille qui ouvrent le bal.
Et votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
On va tout vous dire, mais vraiment tout, sur ces arnaques qui fleurissent sur Internet. Sébastien, attention aux faux placements financiers, vous êtes prévenu.
Oui, attention, on vous promet monts et merveilles, mais ne confiez pas votre argent à n'importe qui. Les épargnants français ont perdu 1 milliard d'euros ces 2 dernières années. Un fléau dénoncé aujourd'hui par le procureur de Paris et par le président de l'autorité des marchés financiers, Robert Ophèle.
Ce qui nous inquiète, c'est d'abord le nombre des victimes. Nous parlons de milliers de victimes et c'est la multiplicité des supports sur lesquels les escroqueries se portent. Ça peut être des vaches laitières, du vin, du diamant, des cryptoactifs, du forex. Ils sont extrêmement agiles, extrêmement organisés. Ils sont organisés sur une base mondialisée avec une expertise, un niveau d'expertise extrêmement fort à la fois dans les techniques informatiques qu'ils utilisent et la psychologie des attaques qu'ils font. C'est du harcèlement sur les personnes les plus vulnérables, souvent des personnes âgées, souvent un peu isolées et donc plus fragiles par rapport à ce type de sollicitation.
Quelles sont les recommandations que vous feriez ?
Parlez-en. Parlez-en avec vos proches, parlez-en avec votre banquier, parlez-en avec les autorités qui sont là pour vous aider, que ce soit l'AMF, la CPR. Et en cas de problème, n'hésitez pas, portez plainte.
La mise en garde donc du président de l'autorité des marchés financiers avec Alain Accot.
La Banque de France revoit ce soir sa prévision de croissance pour l'année prochaine. Ce sera 1,3%. Donc pour 2020, jusque-là, elle espérait 1,4%.
L'actualité à l'étranger, Sébastien, ça se passe en Israël aujourd'hui même, où 6 millions d'électeurs doivent décider du sort de Benjamin Netanyahou.
Les bureaux de vote ferment à 21h. Résultat attendu tard dans la soirée. Ce sera serré, a prévenu le Premier ministre qui est au pouvoir depuis 10 ans et qui joue non seulement sa réélection, mais aussi sa survie politique, puisqu'il risque une mise en examen pour corruption s'il perd l'immunité qui le protège. Élection qui se transforme donc en une sorte de référendum pour ou contre Netanyahou.
Je veux exercer mon droit et choisir mes représentants au gouvernement et essayer de pousser la droite hors du gouvernement.
J'ai voté pour un parti à droite du Premier ministre pour qu'il soit plus solide sur la sécurité, pour qu'il protège nos traditions et le judaïsme, et pour qu'il renforce l'économie.
Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait quelqu'un capable de remplacer Netanyahou. Il connaît la région et il sait comment nous présenter au monde. Il y a beaucoup de défis à relever et personne ne peut le remplacer pour ça.
Voilà, parole d'électeur israélien avec notre correspondante Marie Nigli Benjamin Netanyahou qui fait notamment face à l'ancien chef de l'armée Benny Gantz.
Des résultats qu'on vous livrera évidemment, mais il faudra attendre demain parce que ce sera Real PSG, mais en attendant il se passe des choses. Vous avez reconnu cet hymne, il annonce le retour des grandes soirées de football européen, bien sûr.
C'est le retour de la Ligue des Champions ce soir avec deux clubs français qui ouvrent le bal, Lyon face au Zénith Saint-Pétersbourg. On ira sur place à 19h juste après le coup d'envoi. Et à 21h, eh bien Lille fait son retour sur la scène européenne à Amsterdam face à l'Ajax. Cyril de la Morinerie, vous êtes sur place et la soirée commence par des tensions, hein, car une centaine de supporters lillois ont été arrêtés il y a quelques minutes après des violences.
Oui, arrêté près d'une station de métro dans le sud-est de la ville. Il perturbait l'ordre public. Certains marchaient sur des voies de métro, d'autres ont allumé des fumigènes. La police signale également des actes donc de violence parmi les supporters arrêtés. L'un d'eux a été blessé. En attendant, parmi les 2700 fans lillois présents à Amsterdam, eh bien la grande majorité est ici pour faire la fête, pour vivre un grand moment de football comme Gonzague et Nathan.
La Ligue des Champions, on ne l'a pas eu depuis 2013 et bon, ça a commencé à faire long. Et là, même les matchs à domicile, le stade est complet pour les trois matchs.
Le match nul, ça serait déjà bien. Et après, pourquoi pas un petit but à la fin, 90e minute pour enflammer le stade.
Et les supporters ont d'ailleurs le même pressentiment que José Fonte, le capitaine lillois, et bien que Lille, le petit poussé, a les ressources pour créer Amsterdam. La première grosse surprise. Et oui, ils sont de cette Ligue des Champions. Ils sont très très chauds.
Ils vous ont
à côté
pris le micro. Et pour cause.
Voilà les supporters lillois en direct avec Cyril de la Morinerie depuis Amsterdam pour Europe 1.
Et évidemment, demain, hein, Real Madrid, PSG, ça se passe au Parc des Princes à Paris. Et on vivra ça en direct de 18h à 20h sur Europe 1 avec tous nos invités, consultants, éditorialistes. Une grande messe donc du football européen qui reprend ses doigts. Et en direct également sur Europe 1. Merci beaucoup Sébastien.